France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Vincent Munier, photographe et cinéaste.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je sais ce que c'est que d'être tourmenté du besoin d'infini et d'absolu, mais je sens que le monde n'a de sens que par l'élan de la vie. Mais cet élan se fatigue vite. Nous retombons, nous cherchons à bâtir un monde qui ne nous demande pas d'effort, un monde sans mouvement. Si j'aime tant ma vie de peintre, c'est qu'elle est à la fois immense et très centrée, car je vis la vie de la vaste nature, mais je veux la tenir en mes mains par une conquête très âpre et personnelle. J'ai l'infini à ma portée, je le vois, je le sens, je le touche, je m'en nourris, et je sais que je ne pourrai jamais l'épuiser, et je comprends mon irrépressible révolte lorsque je vois supprimer la nature. On me tue mon infini. Infini misérable, penserez-vous, que celui qui peut mourir de main d'homme, petite chose, bien petite chose que le respect volontaire de la nature. Bonne volonté fragile lorsque tout nous pousse à l'exploiter sans mesure. Cela m'a étonné puis irrité de voir que cela ne paraissait pas à mes amis aussi clair et aussi décisif qu'à moi-même. Pourtant, me disais-je, si je leur donne un crayon et leur demande de reproduire une image qu'ils croient voir en eux clairement, ils seront bien empruntés. Ils diront peut-être qu'ils ne peuvent pas dessiner par manque d'habileté manuelle, qu'ils n'ont pas la main, le coup de crayon. Un crayon pourtant est bien facile à manier. Si Léonard de Vinci traçait un cercle parfait ou si les peintres japonais tracent au pinceau un trait fin comme un cheveu, Renoir a peint ses dernières œuvres avec un pinceau attaché à une main crispée par les rhumatismes. J'ai bien souvent fait des croquis après des heures d'affût, grelottant et transi, plein de crampes, les mains gourdes. Ils ne savent pas, me disais-je, qu'apprendre à dessiner, c'est simplement apprendre à voir. Bonjour Vincent Munier.
Bonjour Mathieu.
Est-ce que vous avez reconnu l'auteur de ces mots?
Oui, non, mais bien sûr, Robert Reynard. Je l'ai jamais rencontré, hein. Il est parti le jour de la tempête Lothar en 99. Mais ça a été un peu, un père spirituel, bien sûr. Je me suis nourri de ses récits d'affût. Ouais.
Là, c'est son tout premier livre, hein, qui s'appelait «
Et la nature ». Réflexion 1943, je crois.
Bravo, absolument. Mmh. Et on pourrait presque remplacer le mot peintre par celui de photographe dans ces lignes.
Je sais que Robert Reynard n'avait pas trop les photographes dans son cœur, hein. Il trouvait qu'on était un peu des prédateurs, et il a pas tort, parce qu'on a quand même nettement moins de mérite que des dessinateurs ou sculpteurs ou peintres, je trouve. Mais oui, cet homme m'a véritablement accompagné, et toujours, toujours. Vous avez vu, il n'y a rien de plus moderne. Et je prends cette phrase, c'est vrai qu'on a cette sensation d'infini, vraiment. Moi, je l'ai eu très tôt, et on a l'impression qu'on nous l'enlève, quoi. C'est quand même dingue.
Vous êtes notre invité au carré, Vincent Munier. On va revenir sur votre parcours de photographe depuis votre enfance dans les Vosges jusqu'à la Panthère des Neiges. Et votre histoire, elle commence le 14 avril 1976 à Épinal. C'est le jour de votre naissance. Et voilà ce qu'on pouvait entendre ce jour-là à la télévision.
La pollution, c'est ici qu'on voit particulièrement son côté catastrophique. Vous voyez là, sur les rochers, le goudron qui se dépose à chaque fois que la marée redescend.
Et à chaque marée montante, le mazout qui revient par plaque s'agglutine un peu partout. 20 à 30 cm d'hydrocarbures tapissent ainsi la côte autour de l'Olympique Brévry. Essayer de marcher dans ce magma est déjà difficile, mais nettoyer le goudron collé sur la roche, infiltré un peu partout, est une opération désespérante. Une opération qui serait impossible sans les détergents, ces mêmes détergents que l'on soupçonne aujourd'hui d'être un remède pire que le mal. Les soutes du superpétrolier étaient vides. Le mazout nécessaire à la propulsion a suffi pour déclencher une telle marée noire.
14 avril 1976, jour de votre naissance, Vincent Munier, la marée noire d'Ouessant par l'Olympique Bravery. C'était dans Thalassa sur FR3. Bon, on aurait aimé trouver plus joyeux, hein, mais quand même, ça disait quelque chose de ce qui se passait à ce moment-là.
Déjà.
Avec des images très marquantes. Alors évidemment, vous étiez bébé, mais est-ce que vous avez été marqué par ces images ensuite de marée noire ou pas par...
Une vingtaine d'années plus tard, il y avait les Ricards. Donc c'est vrai qu'on était avec mes parents sur la plage à nettoyer les fous de bassin et tous les oiseaux marins. avec la LPO. Donc oui, j'ai pu voir ça de près.
Comment se faisait-il que vous soyez justement en train de nettoyer les oiseaux au bord de la mer alors que vous habitiez dans les Vosges?
Oui, moi c'était juste qu'on passait les vacances de Noël, ouais. C'était pendant ces périodes-là en Vendée, et on a été, il y a eu la tempête en même temps, je crois, donc l'échouage de l'Erika, et on a été bénévole avec la LPO.
Il y avait eu la Moco Cadiz juste avant. Entre justement l'Olympic Bravery et cette séquence dont vous nous parlez. Les Vosges où vous êtes né, ça représente quoi pour vous ce massif vosgien?
Bah c'est quand même, j'ai du mal à m'en séparer, c'est là où j'ai quand même grandi, c'est là où j'habite toujours, et je l'aime autant que parfois j'ai envie de le fuir.
Pourquoi?
Mais parce que je le vois qu'il est quand même sacrément, il souffre d'anthropisation énorme, hein. On est quand même face à un défi comme dans pas mal de montagnes en France, d'une surpopulation et enfin de trop de loisirs en quelque sorte. On sent que c'est grignoté et qu'il y a de plus en plus de monde, encore plus désormais avec les GPS dans les téléphones où les gens sont hors sentier partout, on le voit avec nos pièges photos. Et puis la forêt qui souffre, évidemment. Donc c'est pas évident. Et en même temps, ça recèle, il y a encore des endroits qui sont assez fabuleux. Donc ça me nourrit. Donc pour moi, ça reste, un ancrage quand même assez profond.
Ah oui, vous n'avez jamais quitté la région en réalité, hein.
Et non, j'ai jamais osé. Je suis resté là où j'ai grandi, et c'est assez étrange. Et je continue de faire mes affûts là où je les faisais quand j'étais gamin.
Vous auriez aimé oser partir ailleurs ou pas?
Ça m'a traversé l'esprit quand je me suis pris une grande gifle de sauvage entre guillemets quand je suis allé au Kamchatka. C'était l'un de mes voyages les plus forts.
Ouais. Donc
après,
ça,
c'était l'Arctique, on est à l'extrême est de la Sibérie, de la Russie. Cette péninsule incroyable qui ressemble à un doigt enflé qui protégeait un peu la Russie donc des États-Unis pendant la guerre froide. Donc c'était interdit d'y aller jusque dans les années 90.
Avec ses volcans?
Avec ses volcans, enfin c'est fabuleux. Volcans, montagnes, lacs, littoral et surtout un paradis des ours. C'est-à-dire qu'on avait qu'une ville portuaire, Petropavlovsk, une petite route qui arrivait à un village Even à Esso et rien d'autre. Donc c'était le paradis des ours, il y avait 15-20 000 ours, toujours. Hein. Et donc c'était interdit d'y accéder. Donc c'était un véritable paradis.
Donc
et
vous auriez pu quitter les Vosges pour aller là-bas.
Que je suis allé, j'ai fait plusieurs séjours. C'était un de mes premiers livres aussi. Et j'étais à deux doigts d'y vivre. Ouais, presque.
Ah vraiment?
Ah ouais, parce que c'était d'une puissance incroyable par rapport à cette intensité qu'est le sauvage, quoi, où il y a tout le monde, où pour une fois on se sent proie et pas le dominant. Et c'est un sentiment qui m'est précieux, je trouve.
Vous aimez être une proie?
J'ai cette sensation qu'on a besoin de se faire chahuter par quoi que ce soit, soit des grands prédateurs, soit par un virus, soit par des tempêtes, pour qu'on enlève nos œillères, on est un peu dans une cécité en quelque sorte. Donc, et j'ai la sensation que quand on est en contact avec des éléments qui sont plus grands que nous, quand on est face à ça, il y a quand même ce sentiment de vulnérabilité qui est précieux par rapport à notre position.
Pourtant, quand vous dites finalement, les Vosges sont traversées aussi par les activités humaines, le paysage change beaucoup, c'est aussi une façon d'être la proie aussi d'un nouveau monde là, qui prend beaucoup d'ampleur, non?
Ah ouais, mais ça, oui, mais c'est quand même...
C'est pas cette proie-là.
C'est par rapport à presque à mes contemporains, et puis moi je suis dedans, c'est-à-dire que parfois il y a quand même un sentiment, de honte vers partie de cette espèce qui grignote sur toutes les autres. Donc c'est vrai que ce sentiment de vouloir habiter dans des grands espaces, il était fréquent. Et après, c'est certain qu'il y a quand même beaucoup de choses comme la famille, et puis ce serait une fuite en l'occurrence, parce qu'on sait très bien que on peut quand même essayer à notre niveau d'influer un peu sur les choses.
Donc pas de Kamchatka.
Donc non, j'ai abandonné l'idée d'aller vivre là-bas.
Donc vous êtes revenu dans les Vosges, vous avez passé donc toute votre enfance où vous vivez encore. C'était quoi votre enfance? C'était la petite maison dans la prairie ou c'est un gros cliché là encore?
Non, mais c'est un gros cliché, j'en parle dans l'introduction de mon livre. Tout le monde pense que j'ai grandi dans la forêt. Non, pas du tout. J'ai eu la chance immense d'avoir eu des parents qui nous ont ouvert les yeux, à mon frère et ma sœur et moi, par rapport à la beauté de tout ce qui nous entourait. On était dans une petite maison, là où habitent mes parents, pas loin d'une voie ferrée, enfin 10 mètres d'une voie ferrée. À chaque fois qu'un train de marchandises passait la nuit, ça faisait trembler la maison. Des friches industrielles tout autour, et une fois ces friches dépassées, il y avait un gros massif forestier de 1000 hectares, la forêt de Charmes. Et c'est là que je prenais mon vélo et je partais à l'affût.
Voilà. La forêt d'arbres de Charmes ou de la commune de Charmes?
De la commune de Charmes, avec plus des chênes et des hêtres. Ouais.
Ouais. Et donc vous avez quand même passé du temps dans cette forêt?
Absolument. Donc elle n'était pas très loin, mais il fallait s'échapper un peu de cette laideur et de toutes ces usines qui entouraient la maison.
Ce qui est intéressant quand on vous lit quand même, c'est que au travers de votre père, de votre entourage familial, de vos amis, ça a été effectivement un lien avec la nature parce que c'était votre environnement, mais ça a été aussi un lieu de connaissance et d'observation aussi. C'est peut-être ce qui a fait la différence quand même. Ça n'a pas été qu'un décor en tout cas pour vous.
Oui, je pense, ouais, vraiment. Ça, c'était précieux d'avoir grandi avec tout un monde de naturalistes autour de nous. Mon père faisait partie un peu de ces écolos en parka, kaki, les barbus qui allaient manifester contre les pluies acides, des stations de ski qui venaient faire des cicatrices dans nos forêts vosgiennes. Donc j'ai grandi dans tout ce microcosme avec des entomologistes, des mycologues, avec des ornithologues, des mammologues.
Donc, des mammologues. Qu'est-ce que c'est qu'un mammologue?
Qui étudie les mammifères.
Ouais.
Et donc oui. Oui, c'est une chance inouïe. Et je crois que mon père, il m'a toujours inculqué ça, qu'il faut apprendre à connaître l'espèce avant de la photographier. Déjà, c'est pour une chance de succès et surtout ne pas la déranger. Voilà.
On va écouter la voix de Paul Géroudet au Lac Léman à Genève. C'était en 1968 sur la radio-télévision suisse.
En ce moment, à la pointe à la Bise, vous avez une grande foule de martinets noirs qui viennent chasser les insectes au-dessus des roseaux. Et dans l'instant même, je viens de voir un faucon qui vient de passer. Mais la plupart de ces oiseaux, évidemment, ne se montrent pas au commun des mortels et il faut les chercher, il faut les écouter, il faut, en somme, aller les voir dans leur cachette.
Voilà, ben ça rebondit exactement sur ce que vous venez de nous dire, Vincent Munier. Qui était Paul Géroudet, exactement?
Paul Géroudet, c'est un ornithologue. Il a écrit énormément sur les oiseaux, avec des descriptions qui sont magnifiques. Hein. C'est bon, je conseille de lire Géroudet, et puis même de l'écouter, de les entendre parler. Géroudet, Robert Reynard, évidemment.
Les peintures de Robert Reynard sont magnifiques aussi,
oui,
d'ailleurs.
Oui, oui, Jacques Rim, qui est toujours là. Jacques Rim aussi, qui est un peu un disciple de Robert Reynard. C'est je trouve assez, assez chouette de les écouter raconter leur récit d'affût et la manière dont ils décrivent leurs observations.
Ils vous ont beaucoup nourri, précisément, enfant?
Ah, complètement. Géroudet, Hénard, complètement. C'était vraiment, c'était des livres précieux dans la bibliothèque. Ouais.
Vous les avez rencontrés ou pas, non?
Non, jamais. Jamais, jamais.
Votre premier appareil photo, il arrive quand, alors, dans toute cette histoire?
Il y a eu ce moment dont je parlais assez souvent, et c'est vrai que c'était quand même un nouvel élan quand mon père m'a prêté son appareil photo à 12 ans, que j'étais sous un filet de camouflage quelques heures tout seul, lui était dans une autre clairière, et où j'ai eu ce chevreuil qui est venu tout près, où j'ai pu figer ce moment complètement fou entre rêve et réalité de voir une bête sauvage si proche. Et j'avoue, suite à ça, c'était ma quête incessante de reproduire ça, d'essayer d'être complètement camouflé, d'être végétal pour revoir, essayer de revivre des instants de grâce comme ça avec des bêtes sauvages. Sans qu'ils m'aperçoivent.
12 ans donc, hein, c'est ça?
À 12 ans, et puis après, la passion était là, donc j'ai... À vrai dire, je ne pensais plus qu'à ça, donc l'école est passée en second,
Lieu. Qu'est-ce qui s'est joué en fait dans ce moment avec le chevreuil? Vous avez 12 ans, vous avez l'appareil photo de votre père, c'est quoi finalement ce qu'il y a dans cette séquence? C'est la présence d'un animal près de vous, c'est un lien silencieux avec l'animal, c'est votre proximité avec lui, c'est quoi au fond?
Je pense que c'est plein de choses, c'est quelque chose qui est assez grisant, surtout quand on a 12 ans, où c'est ce mélange d'angoisse, de peur, et puis de se prouver des choses, de se tester un peu tout seul, c'est quand même pas rien. Et ça, j'avoue que mes parents ont eu cette confiance de souvent me laisser seul. Après ce moment-là, je prenais mon vélo et je dormais en forêt avec mon petit sac de couchage, seul, et c'est pas évident, quoi. Donc il y a une espèce de mélange... De tout ça, de micro-aventures, de la présence de ces bêtes qui nous habitent tout le temps, quoi. On sait qu'elles sont là, elles nous regardent dans la forêt. C'est ça qui est quand même fascinant, c'est qu'on n'a pas une vue comme en montagne très loin où on peut anticiper la vue des bêtes. C'est qu'en fait, on se sent observé par des milliers d'yeux, quoi. Il y a des êtres qui sont là, des êtres invisibles qui nous regardent. Et c'est grisant. Puis il y a un côté, on mélange la construction de cabanes. Enfin voilà, on a fait un peu de scoutisme avec mon frère. On a donc on fait des affûts dans les arbres, des affûts flottants, des affûts un peu partout quoi.
Mais c'est... dormir dans la forêt seule, on n'a pas peur quand on est enfant?
Bah si, mais vous savez que je peux toujours avoir peur, hein.
C'est vrai.
Évidemment. Non, mais la peur est un sentiment utile. Je peux vraiment flipper parfois si un sanglier vient me grogner à quelques mètres. Et heureusement, et tant mieux. Et c'est ce que je disais au début. Moi, je trouve que ce sentiment-là, il est précieux, quoi. Avec les ours, c'est hyper fort. Mais même dans des forêts sans ours ou sans loups, on peut vraiment flipper. Et tant mieux. Mais après, on flippe un peu moins dans le sens où on arrive à mettre des noms sur les sons. Donc c'est quand même pas mal. Mais je sais pas si vous connaissez François Terrasson, il a écrit sur la peur du sauvage. Et c'était génial ce qu'il faisait. Il emmenait les gens, des journalistes ou d'autres, sans lampe électrique, sans portable, il n'y a pas de portable à l'époque, pas de briquet, rien, et dormir dehors sans, voilà, juste un duvet dans le noir, et chacun un peu éparpillé, puis se rassembler pour, et je trouve ça super. Et moi, je le faisais avec mon père, évidemment.
Et vous avez compris, Vincent Munier, que l'appareil photo allait vous permettre de revivre ce genre de situation, ben, comme ça. Avec le chevreuil, finalement, vous êtes dit, ben, c'est ça qui me...
C'est ça qui était quand même hyper excitant, c'est qu'on a cette sensation tellement, le moment est fugace et furtif que, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, quoi. Est-ce qu'on a rêvé? Et surtout, c'est dans des entre chiens et loups, avec des lumières un peu crépusculaires. Donc, c'est des ombres qui passent, des ombres animales. C'est hyper puissant. Et là, tu arrives à figer ça. C'est quand même super fort. Et tu peux t'y replonger. À l'époque, il fallait attendre 3 semaines avant que la pellicule soit développée pour avoir les diapositives. Donc, ce temps était assez précieux, je trouve. Maintenant, avec le numérique, c'est différent. C'est plus le même charme. Mais bref. Et puis, le partager après. Donc le partager, de raconter, de faire des livres, des expos, ça a été toute ma vie, ça l'est toujours.
Et ça l'est toujours.
Ça l'est toujours.
C'est pas terminé.
C'est bizarre.
Loin de là, c'est bizarre. Vincent Munier.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Et le César du meilleur film documentaire est attribué à La Panthère des Neiges. Marie Amiguet et Vincent Munier.
Alors, je peux vous dire que quand on est en train de se peler les miches au Tibet, à 3 500 mètres d'altitude, on ne pense pas être dans cet écosystème-là.
C'est une belle histoire, cette panthère. C'est juste inimaginable d'être là, ça c'est certain. Et je pense que c'est ça qu'on a un peu oublié. C'est qu'on pense quand même beaucoup en l'homme et l'homme, mais finalement, il y a quand même plein d'autres espèces animales dont on fait partie, qui sont tellement intéressantes, et moi c'est un peu toute ma vie, et là ce film c'est un partage, c'est de cet amour inconditionnel que j'ai pour ces bêtes qu'on oublie, voilà.
Vincent Munier, vous qui êtes notre invité cet après-midi, c'était en février 2022, en smoking, c'est la première fois qu'on vous voyait comme ça, vous en aviez loué un d'ailleurs pour l'occasion ou pas?
Oui, complètement, ouais. Mais je me souvenais plus de ce qu'on avait dit. Ouais. Ouais.
Quel souvenir vous gardez de cette prise de parole devant le parterre des Césars? Quand vous réécoutez ça, à quoi vous repensez en fait?
Oh, c'est un double sentiment. C'était déjà de pas être à ma place. Le matin même, j'étais à l'affût au Grand-Duc. J'avais qu'une hâte, c'était de retourner à mon affût. Quand on avait dans la salle, on espérait ne pas être appelé sur scène. Donc après dire. Donc c'était plutôt. Et puis non, c'était très étrange, très étrange. Et après, on se dit bon ben voilà, il faut qu'on se fasse violence. Je trouve ça assez. Pas has-been, mais c'est très étrange quand même. C'est cérémonie où... et c'est alors et en même temps.
Vous avez eu du plaisir quand même à un moment.
Non, franchement,
pas
non,
du tout.
Non, j'en ai pas eu. Et non, c'était plutôt une douleur. Et en même temps, on se dit que voilà, on fait ça, c'est quand même pour, c'est même la raison pour laquelle j'avais appelé Sylvain Tesson. C'est on a toujours cette sensation d'être un entre-soi, de toujours convaincre des convaincus. Et ce film, franchement, ce projet de film, c'était pour diffuser au plus large. Donc je me suis dit que non, il fallait qu'on se fasse violence. C'est nos coproducteurs qui nous ont poussés à faire Cannes et tout ça, et donc les Césars. Et puis tant mieux, parce que ce film a fonctionné, mais oui. Pour moi, j'avoue que c'était quand même une période compliquée. Ouais.
Et est-ce qu'il est toujours votre César dans votre cuisine, entre la bouteille d'huile et le poivrier, ou pas?
Non, alors je l'ai mis dans le poulailler avec les poules.
Ah,
là,
non, ouais. C'est vrai.
C'est vrai. Ouais, ouais.
Ah oui, c'est dire non, le c'est... peu d'intérêt que vous portez à la chose, ouais. Quand
non,
même.
Non, mais après, non, mais je vais pas. Non, mais c'était très chouette, moi. tout cas, bravo pour de nous avoir sélectionné un film documentaire avec si peu de moyens, un film vraiment de passionné. Déjà, on imaginait, c'était juste pour la télévision, on n'imaginait pas qu'il ait ce chemin-là. Donc non, c'était quand même magnifique.
Qu'est-ce qu'il fait dans votre poulailler ?
Ouais, c'est une histoire...
Mais c'est quoi l'histoire ?
Non, mais
si raconté, c'est drôle quand même.
Non. Pour l'instant, il est avec les poules et mon coq veille.
D'accord. Mais il pourra encore changer de place.
Oui, bien
alors,
sûr. Je voulais le ramener là-bas au Tibet, mais pour l'instant, on verra. Mais ou l'offrir à une école. Mais non, ça c'est assez anecdotique. Mais voilà, pour dire que c'était quand même génial. Grâce à ça, on a besoin de ça malheureusement, d'avoir ces coups de projecteur pour donner un peu d'attention aux autres bestioles qui vivent avec nous.
En lisant les articles préparés par Anna Massardi pour cette émission qui vous ont été consacrés, je suis tombé sur celui de Télérama en décembre de l'année dernière, titré « La star de la photo animalière ». Même avec un César pour la Panthère des Neiges, et même avec votre statut aujourd'hui dans le monde de la photo, j'ai l'impression qu'effectivement ce mot « star », ça vous va pas du tout. Quelle relation vous entretenez avec la notoriété quand même ? Parce que vous êtes très reconnu aujourd'hui, Vincent Munier.
Non, je suis très embêté parce que non, ça me pèse énormément, et en même temps... ça flatte l'ego et tout le monde en a et je dois en avoir, mais je le vis très mal tout ça, je le vis mal, vous voyez, je vais une fois par an à Paris, je refuse énormément de choses, c'est tellement paradoxal par rapport à ce que je vis, c'est quand même des gaps énormes, des contrastes énormes entre mon quotidien et puis d'un coup, et il faut avoir cette flexibilité que j'ai parfois, mais ça me pèse énormément. Et je suis dans des étapes impossibles parce que je me sens vrai et moi, c'est dehors et c'est par les films, c'est la photographie, les films, c'est mon moyen de communiquer, de partager cet amour que j'ai pour le vivant et cette souffrance que j'ai de voir si peu d'intérêt qu'on lui porte. Et voilà, normalement, ça devrait se contenter à ça, quoi. Et même, alors, j'ai accepté avec vous parce que vous faites une émission qui est tellement précieuse pour le service public que j'ai dit oui. Mais ça m'est difficile. C'est compliqué.
Ce studio, ce micro rouge devant vous, ces spots allumés partout autour de nous, c'est pas votre milieu du tout.
Non, pas du tout. Hier, on était en conférence avec Claudie Hunzinger, on se connaissait pas, qui est écrivaine aussi de l'autre côté, elle habite pas très loin de chez moi, finalement, en Alsace. Elle avait une jolie image de dire, de prendre soin de son petit renard intérieur, de se protéger en quelque sorte.
C'est ce qu'elle nous avait dit, effectivement.
Et j'ai trouvé ça très beau et j'en prends note.
Écoutons cet extrait, avec la voix de votre père, lorsque vous êtes ensemble sur le terrain, cet extrait du documentaire de Vincent Munier, Éternel émerveillé, de Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiros, c'était en 2019.
Suivre Vincent, c'est quand même se mettre dans une épreuve difficile. Hein. Parce que Vincent, il est dans le monde du sauvage. Et si vous êtes à côté de lui, vous n'existez pas. Je l'ai suivi en Arctique. De temps en temps, j'avais faim ou j'avais sommeil. Lui, jamais. Et quand je disais, mais faut qu'on mange, il me disait, mais t'as toujours faim. Et moi, j'avais envie de dormir, j'avais envie de manger. Mais lui, non. C'est la bête, c'est la trace, c'est l'ambiance qui le conduit.
La voix de Michel Munier, votre père, donc Vincent. Vous êtes tout le temps comme ça sur le terrain ? Vous n'avez jamais de sommeil ? Vous n'avez jamais faim ?
Non, mais il exagère un peu. Et puis lui, il est comme moi. Hein. C'est quand même un fou furieux qui a passé plus de 800 nuits sous un sapin pour le grand tétras, cet oiseau qui habitait nos Vosges. Mais après, c'est comme tout passionné. Je crois qu'on est... Il y a un petit brin de folie et puis d'obsession. Tout à l'heure, on parlait de Robert Reynard, c'est pareil. C'était toute sa vie, ses affûts. Et le temps ne compte plus. Et en effet, il y a quelque chose qui nous anime tellement que ça, oui, on
l'obsession. L'obsession, c'est pour faire la photo ou c'est pour vivre le moment?
Non, je crois pas. De moins en moins, c'est pour l'image. Franchement, hein. Ouais, ça le fut au début. Ça a été un moteur et parfois je regrette, j'aurais préféré être peintre comme Hénard, je trouve que c'est beaucoup moins de technique, de poids, c'est beaucoup plus léger, ou même d'être écrivain ou philosophe, je sais pas, mais j'en ai pas les compétences, mais moi c'est juste la photo qu'on m'a donnée comme outil pour ça.
Donc c'est pour éprouver avant tout.
Ouais, mais de plus en plus je vais à l'affût tous les matins, tous les soirs en fonction de la lumière chez moi, c'est mon quotidien, mais je peux y aller qu'avec des jumelles évidemment.
Ouais. Et l'affût, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on vit, en fait, dans un affût? C'est hypersensoriel, en fait.
Ben oui, c'est hypersensoriel. C'est-à-dire qu'on a tellement perdu cette capacité à les développer, enfin, à les solliciter, hein, que l'affût, on redevient un peu animal, on se met dans la peau de l'animal, on essaye de comprendre de tenter de comprendre un petit peu ses habitudes, ses comportements, comment il va se déplacer. Et donc c'est quelque chose qui est juste génial dans le sens où rien n'est écrit. À chaque fois qu'on y va, c'est une nouvelle page blanche. Et on peut avoir des... surtout pour certaines espèces qui sont un peu difficiles, ouais. On les enchaîne. Et souvent, c'est des échecs, mais finalement, ils sont précieux, quoi. Et quand on a vraiment cette rencontre, c'est d'une violence, entre guillemets. Enfin, c'est tellement beau. Ça me comble complètement. Vraiment.
Quelles que soient les échelles du vivant. C'est-à-dire, c'est pas et forcément aussi, gros animal. C'est aussi des émotions que vous éprouvez avec toutes sortes d'espèces.
Bien sûr. Et puis, je peux avoir une émotion aussi intense face au même à un paysage. Là, je suis souvent dans une petite tourbière. Où de temps en temps il y a des jeux de lumière, mais de folie, quoi. Il se passe des trucs, c'est extraordinaire. C'est une tourbière froide et le soleil tarde à venir. Et quand il vient sur les arbres morts, là, il y a des volutes de brume. C'est magnifique. Ça m'émeut énormément. Et là, je nourris de temps en temps des petites mésanges noires en forêt dans une tourbière. C'est pareil quand on a une petite mésange noire ou huppée qui vient se poser dans votre main, qui fait quelques grammes. Il se passe un moment aussi intense que face à une panthère, vraiment. C'est hyper émouvant.
Et vous n'avez pas d'attente, en fait, quand vous êtes à l'affût? C'est-à-dire que vous êtes ouvert à tout ce qui peut s'offrir à vous, finalement?
C'est ça, exactement.
Même avec votre appareil photo, vous ne dites pas « je vais arriver pour photographier telle ou telle espèce
hein. » Non, franchement. Alors si, il y a toujours un but. On se dit « ce matin, les conditions sont bonnes pour aller à l'affût à tel endroit pour le renard, parce que la lumière va être belle, et puis c'est le... on l'a observé avant, mais on va pouvoir voir une hermine, on va pouvoir observer un pic noir qui va forer sa loge, enfin plein de choses. C'est inépuisable. On revient à cette phrase de Hénard, il y a quelque chose qui est infini, quoi, vraiment. Ouais. C'est-à-dire dans ce qui peut nous nourrir intérieurement. Ouais.
Et cet infini, vous aimez le vivre seul ou ça peut être partagé aussi?
Alors compliqué. J'ai beaucoup fait seul, hein. Et même quand j'étais avec mon père, c'était chacun de notre côté. Quand j'ai vécu le premier moment avec le chevreuil, il m'a laissé tout seul. Les affûts au tétra, voilà, parce qu'on a deux fois plus de chances déjà de voir des choses, on comprend plus de trucs. Il y a quand même aussi, on fait deux fois plus de bruit, deux fois plus d'odeur. Quand on est un peu à l'approche, qu'on fait craquer une branche, quand on va approcher un chevreuil, il faut tout de suite s'arrêter, ne plus bouger, attendre un peu. Donc tout ça, c'est du feeling, ça se passe, c'est de l'instinct. Et souvent, il faut être seul, vraiment. Ouais. Quand on est deux, c'est moins évident. Mais ça m'arrive d'amener des amis. Pour le cinéma, parce que c'est vrai que je filme beaucoup plus. Pour La Panthère, en l'occurrence, on était quatre. Ouais. Hein, il y avait Léopold, Marie-Sylvain et moi. Donc on se mettait à chacun d'un côté. Mais j'ai fait beaucoup de voyages en amont où j'étais seul. Ouais.
Ouais. Et cette solitude, évidemment, c'est aussi le cœur de ce que vous éprouvez, de ce que vous aimez dans ce travail.
J'imagine. Oui, je sais qu'elle fait peur à beaucoup de gens. J'en ai parlé souvent, mais et moi, je pense qu'elle est, c'est normal, mais qu'il faut l'apprivoiser. Je crois que c'est important.
Sauf que vous n'êtes pas seul, parce que justement, il y a autour de vous une cellule familiale qui est aussi très puissante.
Et aussi, c'est vrai.
Mmh. On en parlera peut-être tout à l'heure avec le documentaire que vous êtes en train de préparer et où figure votre père et votre fils, je crois. On a fait une sélection de photos avec vous, Vincent Munier, pour le compte Instagram de La Terre au Carré, pour permettre aussi à ceux qui peut-être ne vous connaîtraient pas de découvrir votre travail. Donc on en a mis 8, on en a posté 8, vous pouvez aller les découvrir. Et la première qu'on a postée, parce qu'elle nous a semblé quand même très marquante, c'est cet ours qui est dont on sent toute la puissance. Là, vraiment, on voit cet animal. C'était dans quel pays, ça, exactement?
Ah, ça, c'est un ours polaire, c'était en Arctique canadien.
Ouais.
Et là, il est passé une après-midi à lécher la glace.
Parce 2011,
oui. Oui, c'est une vieille photo. Et c'est marrant parce qu'il a une position vraiment, il a l'impression qu'il fait la prière.
Ouais.
Il léchait la glace parce qu'il y avait des poissons qui étaient emprisonnés dedans. Et donc c'était chouette. Et il y avait un petit renard polaire qui venait de temps en temps le taquiner. Et j'ai même une photo où on le voit qu'il est en train d'essayer de chasser le renard polaire. Et oui, là, il nous fait comme une prière.
Ouais. Et vous étiez à quelle distance de lui, là?
Ah, là, j'ai un grand téléobjectif, donc j'étais assez loin. Et puis en sécurité aussi, pour ma sécurité et la sienne. Là, j'étais sur un... Dans un Zodiac, pardon.
Ouais. Il y a aussi ces cerfs Elaf dans la Marne en 2022, qui est une photo d'une beauté extraordinaire. Je pense même qu'on doit la voir à Lyon en ce moment, au Musée des Confluents.
Ah,
je crois
exact.
Je crois qu'elle y est, cette photo. Hein.
Oui.
Avec ces cerfs dans la brume.
Ah là, c'était assez récent. C'était en effet au Brame, il y a 2 ans. Et un de mes plus, des moments les plus forts aussi là, vraiment, où il y avait tout, tout était rassemblé.
Ouais.
Et en plus, c'était un Brame silencieux là. C'était un endroit où il y avait très peu de densité de cerfs, donc ça bramait à peine. Et même là, quand les bêtes sont arrivées, mais vraiment, il y avait une lumière de folie, un contre-jour avec ce fond noir, la petite brume au-dessus de l'étang, et ces deux biches qui rentrent dans mon champ. J'ai la séquence vidéo également.
Ouais.
Et c'était fabuleux. Et le cerf, avec beaucoup de prestance, très altier, il vient prendre ses deux biches et repartir dans le bois pour la journée. Et tout ça en silence. C'était un moment suspendu, vraiment.
Mais c'est étonnant parce que ce moment-là suspendu, on le ressent aussi en tant que spectateur de vos photos. Donc c'est là aussi que c'est formidable quand ça arrive finalement aussi à aller au-delà de votre environnement.
Alors ça c'est très dur hein, de transmettre les émotions qu'on a sur le terrain via
une
photo.
C'est sans doute pas les mêmes, mais en tout cas il y a quelque chose. Hein. Et puis on va peut-être commenter aussi cette photo d'un loup blanc parce qu'elle est très très belle. C'est un loup en Arctique en 2013 au Canada.
Oui, bah là c'est mon voyage le plus engagé, on va dire, sur l'île de l'Esmer. C'est l'île la plus au nord du Canada. J'en ai fait 2 des voyages, un en solitaire là-haut et un où j'ai amené un ami pour faire un film. Et puis le dernier, on a eu des soucis, il a fait vraiment trop froid, on a dû être rapatriés. Et là, c'était pour voir ces fameux fantômes de la toundra, des loups blancs arctiques, les loups du bout du monde, comme j'aime bien les appeler, parce que moi, j'imaginais même pas qu'il y a encore du loup là-haut, quoi. Il y a quasiment plus rien. Et là, c'est au mois d'avril, il fait moins 40 avec beaucoup de tempêtes. Et ils sont là en mode presque survie, j'ai envie de dire. Ils vont se nourrir de lièvres arctiques, de bœufs musqués. Là-bas, il n'y a plus d'oiseaux tellement il fait froid en hiver. J'ai pas vu de plumes, il n'y a que du poil. Et le poil, c'est que eux, quoi.
Ouais,
sauf que ce
pelage est incroyable. Mais, hein.
Et puis lui, c'était le loup solitaire qui est venu me voir, qui est resté 2-3 jours avec moi. De temps en temps, je tirais ma poulka, je sentais une résistance derrière, je me retournais, c'était lui qui tirait sur sur ma parka que j'avais mis au-dessus de ma poulka. C'était assez chouette. Il y avait un côté un peu comme Danse avec les loups, chaussettes. Ouais, ce loup qui vient très curieux, mais c'était vraiment ça. Et ces loups de la toundra. Et tout ça pour dire aussi que j'ai fait plusieurs voyages là-haut, en Arctique canadien, sans les voir. Hein. J'ai emmené mon père une fois, on est resté un mois, donc en mode ski, poulka et tente. On a eu des vents terribles, on a vu que des traces. Mais le voyage était fabuleux.
Ces photos extraordinaires, on vous les a postées, on vous a fait un petit carrousel donc sur le compte Instagram de l'émission. Allez les voir pour ressentir, vous aussi, le travail et les sensations éprouvées par Vincent Munier sur le terrain.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Ah, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai, Sylvain. Il y a quelque chose là-haut, en ligne de crête.
Elle a bougé? Elle va bouger. Elle s'est levée. Je vois où elle est. Tu vois le gros bloc, Sylvain?
Le gros bloc.
Elle est à droite du gros bloc. Elle est vraiment en ligne de crête. Elle se détache dans le ciel. Sylvain, regarde. Regarde-moi. Tu vois le plus gros des rochers, le plus sombre.
Oui, il y a un peu rougeâtre.
Un peu rougeâtre. C'est celui-ci, tu vas sur sa droite.
Ok.
Ligne de crête. Tu l'as ?
Magnifique.
Ouais, tu la vois bien ?
Ah oui,
c'est génial.
Ça, c'est une merveille.
Extrait de La Panthère des Neiges, Vincent Munier, Marie Amiguet et donc Sylvain Tesson avec vous sur le terrain. Alors cette scène, évidemment, c'est celle que tout le monde attendait en voyant le film. Et vous aussi, évidemment. Et si vous ne l'aviez pas vue, La Panthère des Neiges, est-ce que le film aurait existé quand même? Est-ce que vous auriez eu un César?
j'en sais trop rien. C'est marrant parce que c'est y a un acteur et puis un scénariste qui ont mis ça au théâtre là. C'était le titre. Et si je n'avais pas vu La Panthère?
Ah, c'est vrai?
Ouais. Et qui est plutôt pas mal. Moi je pense que oui. Enfin, César, j'en sais trop rien. Ça me dépasse. Mais je pense que le film aurait existé. Ça, c'est certain.
Mais il y aurait eu probablement une grosse frustration quand même.
Une grosse frustration, mais vous savez, sur tout le chemin là pour voir La Panthère, on s'est régalé avec le chamanoul, avec le renard du Tibet. Il y en a plein qui ont adoré toutes ces animaux assez méconnus. Donc
vous n'auriez peut-être pas titré sur La Panthère des Neiges.
Alors peut-être pas. Mais après c'était le livre de Mathias Sen aussi, Léopard des Neiges, où ils ont passé 3 mois dans le Chitral, dans le Pakistan, et ils l'ont pas vu. Ouais. Ça a quand même fait un livre magnifique, le Léopard des Neiges.
Quel est le dernier animal que vous avez photographié?
Là, récemment, ouais. Écoutez, c'était mes petites mésanges. Ouais. Les petites mésanges à contre-jour depuis ma ferme. J'ai une lumière magnifique en ce moment, je suis à l'ouest. Et il reste quelques feuilles de noyer, des feuilles jaunes. Et puis là, j'ai mes petites mésanges qui ouvrent les ailes, là. Et c'était très beau, sur un fond noir. Voilà.
Un autre oiseau dont vous avez beaucoup parlé avec votre père, hein, c'est le grand tétras qui a disparu du massif des Vosges en raison de la dégradation de son habitat et de la chasse excessive. On va écouter un extrait de ce documentaire, Vincent Munier, Éternel et Merveillé.
On va essayer de trouver quand même des indices. Hein. On va essayer de trouver quand même des crottes. On va aller jusqu'à la clairière. Là.
On peut nous prendre pour des fous, mais une crotte, que ce soit une crotte de loup, de lynx, de grand tétras, en sachant que ce sont les derniers grands coqs du massif des Vosges, et ça fait chaud au cœur.
On est heureux devant une crotte, c'est pas beau ça.
La crotte, c'est le Graal, Vincent Munier, avec votre père Michel.
Oui, c'est sûr qu'on est quand même des pisteurs, donc c'est un indice qui est précieux, évidemment. Ouais, bien sûr.
Cette année, des lâchers de coqs de bruyère ont été organisés dans le massif vosgien, portés par les services de l'État et le parc naturel régional du Ballon des Vosges, à partir de spécimens prélevés en Norvège, dans l'idée de programmer le retour de l'oiseau. Plusieurs associations s'y sont opposées, et vous aussi, dans un post Facebook, vous êtes dit consterné par l'idée d'une telle réintroduction. Vous qui êtes assez réservé, vous titriez « Réintroduction du grand tétras, la bêtise des Vosges ». Vous avez suscité beaucoup de réactions. Vous êtes vraiment sorti de votre silence habituel là-dessus, Vincent Munier. Pourquoi ?
Oui, alors après, c'est sûr que ça n'a pas plu à tout le monde. Parce que ça m'affectait terriblement. Cet oiseau nous a tellement enseigné. Enfin, mon père, c'est plus de 50 ans de sa vie, et moi aussi. Il m'a appris à vivre dehors. J'ai passé des nuits sous les sapins. Et puis, on a tellement œuvré pour préserver son habitat, déjà, les forêts. Et on se rend compte à quel point cette espèce est quand même exigeante, et on a vu que sa population baissait tout simplement à cause du réchauffement climatique, de son milieu qui n'était plus adapté avec des monosylvicultures et puis beaucoup de plus en plus de tourisme. Donc quand on est face à une réintroduction, moi je suis loin d'être contre, hein. Il y en a qui fonctionnent très bien, vautours, lynx, castors, il y en a beaucoup et c'est vraiment génial. Mais il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'elle a disparu. Et donc là, il va de soi que les conditions ne sont plus bonnes pour lui.
Pour les raisons que vous venez de nous expliquer.
Exactement, et puis principalement qu'il a plus d'hiver, c'est une espèce boréale, et on voit que dans toute l'Europe, j'étais encore il n'y a pas très longtemps en Slovénie, en Roumanie c'est la même chose, sa zone de répartition ne fait que monter, ils vont vers le nord. Et donc ça paraît normal, il y a des espèces qui viennent du sud, hein. On a des guépiers, des roliers, il y a des espèces qui apparaissent, comme la chevêchette, le grand-duc qui est de plus en plus présent dans le massif, et j'ai l'impression que là on est face à un déni quoi de ce qui se passe vraiment. Donc s'acharner à aller chercher des oiseaux du Grand Nord pour les remettre là où ils ont plus leurs conditions, ça nous paraît un peu insensé. Surtout que on n'est pas les seuls, évidemment. Il y a toute une corporation de scientifiques qui est contre.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que évidemment, ils étaient contre, ils ont mis en garde contre cette volonté de vouloir réintroduire cet oiseau. Et pourtant, ça a été fait. Et combien d'ailleurs ont été introduits?
Là, je crois qu'il y en a une dizaine. Il y en a un qui est mort pendant les captures, et il y en a cinq là qui sont morts en peu de temps. Bon, voilà. Et c'est sûr que.
Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de vouloir remettre du grand tétras dans les Vosges, sachant même qu'il ne pourra jamais survivre? C'est un coup de com', c'est quoi, votre avis?
C'est difficile. Un coup de com', je ne sais pas, mais c'est en tout cas des gens qui sont... Je trouve que c'est un peu un cas école sur un interventionnisme un peu irraisonné. J'ai la sensation que là, l'urgence dans notre massif des Vosges, c'est de préserver nos forêts. Nos forêts souffrent quand même du réchauffement climatique. On a des essences d'arbres qui partent. Et surtout, une production qui s'intensifie. On a de moins en moins de scieurs, et maintenant on en a un très gros qui veut des bois très jeunes, de 30 cm, au-delà il veut pas, donc on est sur des forêts d'arbres, des champs d'arbres, pardon, sans vie. Et ça c'est vraiment ce que le tétra nous enseignait, c'est d'avoir des forêts très variées, diversifiées, et c'est ce qu'il faut faire, c'est l'habitat avant tout, parce que c'est fou de focaliser sur cette espèce, je crois qu'il faut en faire le deuil dans notre massif, mais il faut des forêts riches, avec des essences différentes, des âges différents, du bois mort, un humus de qualité, pour retrouver de la vie et pas focaliser. C'est parfois, je trouve, un peu nos problèmes, nous naturalistes ou écologistes, c'est de focaliser sur une espèce qu'on dit parapluie, mais ça a ses limites. Franchement, ça a ses limites. Je crois qu'il faut revoir tout dans l'ensemble.
Donc l'espèce tétra comme espèce de totem des Vosges, il est vain de
vouloir s'agripper à ça. Je pense que c'est une erreur. Alors là, sur 15 ans, ils veulent en remettre 200, donc ça va faire au-delà des moyens, parce que l'argent, c'est rien du tout. Mais on a l'impression que c'est une perte de temps, et surtout, j'ai l'impression que c'est éthiquement et même presque philosophiquement un petit peu à côté, quoi, il me semble.
La bêtise des Vosges, ça a été une polémique aussi. Beaucoup ont été surpris par votre prise de parole là-dessus et la virulence de votre poste. Ça a été difficile à vivre pour vous ou pas, cette polémique?
Bon, un petit peu. Et puis, après, ce qu'il faut comprendre, on était les premières affectées quand même, parce qu'on les suit depuis des années, quoi. Le groupe Tétra Vosges, c'est quand même une association qui les suit depuis plus de 40 ans. Et ils pourraient comprendre pour quelles raisons est-ce que nous, on ne veut pas en remettre, quoi. C'est qu'il y en a une. C'est qu'on sait que les conditions ne sont plus là pour lui.
Vincent Munier, vous êtes en train de monter votre prochain documentaire qui va se passer justement dans les Vosges. Donc là, on est loin du Tibet et de la panthère des neiges. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou pas? Ou on attend 2025
Non, parce que écoutez, c'est...
D'abord, le choix des Vosges, pourquoi? Vous aviez envie de...
Ah, mais parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que je vais à l'affût matin, tous les matins, tous les soirs, et que je filme, je photographie, et donc j'ai quand même, on a 10 ans de roches vidéo, et j'avais envie de... aussi de mettre ça, d'amener ça au cinéma, de partager tous ces moments incroyables que je vis autour de ma maison. Et puis cette chance, je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir eu un père comme le mien, et puis essayer de le partager à tout le monde. Comment est-ce qu'on on se comporte, comment est-ce qu'on est à l'affût, être avec nous sous le sapin, et c'est ça, une histoire de transmission, une histoire de voilà, qu'est-ce qui nous anime dans ces milieux qu'est la forêt, qu'est-ce que c'est pour nous que la forêt.
Donc Michel, votre père apparaîtra dans le film.
Mon père, et puis voilà, et puis il y a mon fils aussi, Simon, qui a 13 ans, qui sera dedans. Ouais. Et c'est voilà, une histoire de transmission et puis de partage.
C'est une histoire de mecs. Hein.
Et en histoire, oui, il y a beaucoup de mecs, mais évidemment que notre ma maman est là aussi. Mais elle sera pas dans le film, elle est très présente. Elle est là, elle prend soin de nous, évidemment. Et non, c'est une envie, un peu comme la panthère, hein, de partager les choses. Et puis d'embarquer les gens dans ces émotions qu'on vit sur le terrain, vraiment, et là, localement, c'est-à-dire.
Faire famille, ça veut dire quelque chose, hein, chez vous, quand même. Hein.
Faire famille, ben, oui, c'est vrai.
Ce lien, en tout cas, ce fil familial,
ouais.
Il est ultra puissant, et peut-être qu'il vous aide aussi à supporter cette solitude quand vous êtes
non, mais sûrement,
très éloigné.
C'est sûrement, quand je faisais le malin en disant que j'allais habiter au Kamchatka, il y aurait eu un manque, évidemment.
Ouais. Ce monde qui nous entoure, Vincent Munier, aujourd'hui, ce chaos global, hein, qu'est-ce qu'il vous inspire malgré tout? Parce qu'on a l'impression que vous êtes toujours enfermé dans votre forêt, mais vous êtes évidemment perméable à tout ce qui se passe.
Hein. Je pense qu'on est aux premières loges pour être, pour être ceux qui souffrent le plus, de voir à quel point... Non, moi je suis vraiment... extrêmement affecté et attristé, hein. Donc là, on va peut-être pas plomber le... Mais non, c'est très dur. L'éco-anxiété est violente à un point, parce qu'on se rend compte, on se rend compte à quel point nos contemporains se moquent de tout ça. Il y a une espèce d'ignorance, une méconnaissance, et les gens sont pas du tout affectés par ce qu'on perd. Et ça fait mal. Ça fait franchement très mal. Alors, et puis comment est-ce qu'on fait pour pallier à cette crise de la sensibilité? On est de moins en moins sensible, et je crois que il faut ramener, c'est ce qu'on disait hier avec Claudie Enzinger, il faut quand même qu'il y ait un peu plus de place pour la poésie, pour ces états de contemplation. Hier, par exemple, moi j'avais le sourire hier à Paris, pourtant, hein, je souffre, hein, ici, mais j'ai vu des flocons qui étaient presque aussi gros que ma paume de la main. J'aurais eu envie de dire, mais il fallait que tout le monde s'arrête de travailler et aller dans la rue et vénérer cette neige qui tombait, qui était juste fabuleuse. Ça, c'est un moment de grâce, un moment de poésie. Il faut qu'on s'en nourrisse tous pour notre bien-être psychologique et même physiologique, finalement.
Merci beaucoup Vincent Munier. Il y a deux expos en ce moment à Salines Royales d'Arc et Senan autour de vos travaux photographiques et puis également au Musée des Confluences à Lyon, en forêt avec Vincent Munier donc à Lyon et à l'affût à Salines Royales d'Arc et Senan. Et vous serez également ce soir au Centre Pompidou pour une conversation alertée avec, vous serez bien entouré, hein, Baptiste Morisot et Sabrina Krief, primatologue Sabrina Krief et philosophe Baptiste Morisot. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir.
C'est gentil, merci.
Ça y est, c'est fini.
Merci Mathieu.
Vous êtes libéré. Et on termine l'émission comme tous les jours avec le répondeur et vos messages.
Gérard Ribérac en Périgord. Mais écoutez, j'appelais au sujet de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Le rapport public du magistrat indépendant se prononce en faveur d'une annulation de l'autorisation du chantier de cette autoroute A69. C'est déjà une position extraordinaire. Ça paraît complètement fou d'aller faire une autoroute, d'ailleurs sans débouché, entre Toulouse et Castres. D'autres solutions, bien sûr, on le sait, sont possibles. Aménager la route existante et surtout réhabiliter la voie ferrée qui existe entre Toulouse et Castres.
Solène, Fort-de-France. Bonjour la Terre. Résident en Martinique depuis 8 ans, nous avons écouté votre émission sur le chlordécone du 21 novembre avec beaucoup d'attention. Il est clair que le non-lieu rendu par la justice est une décision lamentable et il faut traduire les responsables même plusieurs décennies plus tard. Mais nous avons été frappés par les nombreux amalgames qui ont découlé du traitement de ce sujet sur votre antenne. Le « ouvrez les guillemets » colonialisme structurel qui avait beaucoup de mal à étayer avec des arguments concrets votre invité, pourtant chercheur au CNRS, n'existe pas. Comme selon lui l'incapacité des Martiniquais à parvenir à des niveaux de responsabilité et de pouvoir au niveau judiciaire, ou encore la capacité des médecins à mener des recherches. Tout ceci est possible. Sans rancune, la Terre, c'est un sujet complexe, mais il est temps pour une lecture critique des troubles en Martinique.
Bonjour, c'est Clotilde à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Je réagis à votre émission sur les jardins, puisqu'il était question de la cité en étoile avec des jardins qui effectivement est à Ivry, mais qui effectivement a beaucoup vieilli. Le béton est tout moche, il y a quelques feuilles vertes qui pendent de ci, de là. Il paraît que c'est agréable de vivre dans les appartements qui y sont, mais de l'extérieur c'est affreux. Et ça serait bien que des architectes jardiniers et des jardiniers architectes se penchent sur la rénovation ou l'embellissement de ce qui a été un joli projet à une époque et puis qui est tombé un peu en déshérence.
Bonjour la Terre en carré, c'est Jérôme à l'appareil, j'habite dans le Morvan et je voulais vous parler des sapins de Noël que je vois récolter en ce moment pour partir dans les supermarchés.
Je pense qu'il est un peu risqué de rentrer cet objet toxique dans nos maisons, vu le nombre d'épandages que j'ai vu réaliser tout au cours de la saison, ce sont des épandages de produits phytosanitaires bien sûr. Donc attention aux sapins de Noël, soi-disant naturels. Joyeux Noël quand même, à bientôt.
Joyeux Noël effectivement, merci pour vos messages. 01 56 40 45 45, dans un instant, affaires sensibles. Fabienne Caboul ensorcelée avec Fabrice Drouel.